100% des individus se sont déjà mis en colère au moins une fois, même le nouveau-né. À ses premières minutes à la maternité, il s'est déjà mis en colère, malheureusement. Et dans la Bible, Jérémie nous rappelait que le sujet de la colère est longuement traité. On le voit au travers de plusieurs passages, notamment par beaucoup, ça va beaucoup parler, on va trouver beaucoup de passages sur la colère de Dieu, sur la colère de l'Éternel, notamment dans le livre de Deutéronome. Et là, on peut lire que car le feu de la colère de Dieu s'est allumé, et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts, il dévorera la terre et ses produits et embrasera les fondements des montagnes. En voilà la colère de Dieu. La colère de Dieu qui est motivée par les agissements l'infidélité du peuple qui est sur terre. Il y a une raison, c'est leur comportement, et Dieu se met en colère et il les juge par la suite. Pour ce message, on va s'intéresser au livre de Genèse 34. Le thème de message l'a intitulé Sous l'empire de la colère. J'aurais pu la dire sous l'emprise de la colère ou même l'emprise de nos émotions, parce que c'est quand même quelque part, la colère est une émotion. On va traiter ce thème en trois points. On va traiter d'abord de parler des raisons de la colère, les motivations de notre colère. Puis on traitera des conséquences. Qu'est-ce que notre colère engendre? Et là, je ferai pas un focus sur la colère de Dieu, mais sur notre colère à nous, hommes et femmes, ou femmes et hommes et enfants. Et finirai par des solutions et que on n'est pas démunis. On n'est pas démunis. Donc, les raisons de la colère. Dans le livre de Genèse, au chapitre 49, on voit Jacob, le père Jacob, qui est là au crépuscule de sa vie, et il réunit ses fils, il réunit tous ses enfants, et il se réunit pour leur annoncer, pour leur dire ce qu'il adviendra d'eux par la suite. Il les appelle chacun à leur tour, et il commence par Ruben. Et là, il appelle Ruben et il annonce à Ruben qu'il perdra son nom, son droit de naissance, son droit d'aînesse. Et parce que il s'est rapproché de la mère, de la femme, de la compagne, de la concubine de son père. Puis alors vient le tour de Siméon et Lévi. Siméon et Lévi sont frères. Et ils ont une sœur, c'est Dina. Il leur dit ceci. Leurs épées sont des instruments de violence. Je ne veux pas participer à leur conciliabule. Je ne veux pas m'associer à leur assemblée, car pour assouvir leur colère, ils ont tué des hommes, et pour suivre leur désir, ils ont mutilé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. À ces mots, Jacob évoque leurs agissements à Sichem. Il leur rappelle le tsunami de violence absolue qu'ils firent abattre sur les habitants de Sichem, les massacres et pillages qu'ils ont occasionnés à ce moment-là, que l'on verra dans Genèse 34. Et il clôture son propos par « Maudite soit leur colère, car elle est violente ». Avant d'appréhender ce livre, le Genèse 34, en fait, déjà, c'est de savoir, d'essayer de définir la colère. On a déjà quelques bribes de définition. On sait que c'est une émotion. Notamment en psychologie, on dit que la colère est considérée comme une émotion secondaire, qu'elle est liée à une blessure physique ou mentale, à un manque, une frustration, et très généralement, elle va se caractériser par une réaction vive qui parfois peut entraîner des manifestations psychologiques ou physiques de la part de la personne qui est concernée. Un peu comme le nourrisson qui va se mettre en colère parce qu'il a faim. Et selon le Larousse, bien évidemment, c'est un état affectif violent et passager, résultant du sentiment d'une agression, d'un désagrément, traduisant un vif mécontentement et accompagné de réactions brutales. La colère va être engendrée par très souvent par une injustice. Comme on le disait un peu plus haut, avoir un sentiment, ressentir de la colère, c'est quelque chose de normal. Et Jérémie l'exprimait, le disait si bien, c'est normal d'être en colère, c'est une émotion qui fait partie de nous. On va pas s'en priver, c'est normal de se mettre en colère. Je pense qu'on est un peu tous pareils. On a horreur de l'injustice. Et souvent, on va se retrouver là, on sera assis devant notre écran de télé ou sur notre smartphone ou sur un journal papier, on lit des articles sur l'actualité internationale. Et là, on tombe sur un article sur le groupuscule Boko Haram. Et là, en lisant, on apprend qu'ils ont enlevé des jeunes enfants dans un établissement dont certains ont été massacrés ou violés ou autres. Et là, systématiquement, quasiment automatiquement, naît en nous un sentiment de colère. Et je parle pour moi, j'ai une forme de haine qui apparaît, qui émerge comme ça. Et je serais contre la peine de mort, mais à ce moment-là, je me dirais quand même, franchement, s'ils disparaissent, ça m'empêcherait pas de dormir. Et très souvent, on va justifier un peu, on va notre ce que l'on va exprimer à ce moment-là, c'est quelque chose qui sortira du plus profond de nous. Et c'est quelque part, c'est quelque part, ça va être, ça peut être justifié parce qu'on a vu une injustice, on a vu quelque chose, on voit qu'ils ne sont pas condamnés par la suite. Revenons au livre de Genèse 34. Et on verra un peu, on va le dérouler un peu, les raisons de la colère un peu tout du long. Dans le livre de Genèse, donc je vais juste un peu planter le décor, recontextualiser la chose. Donc là, Jacob vient de s'installer avec sa famille à l'entrée du village de Sichem, et il vient d'acheter une portion de terrain au fils d'Hamor, qui est le chef de la ville de Sichem. On peut le lire au chapitre précédent. Et un jour, lorsque la fille de Léa, Dina, allait se promener comme ça dans la ville et rencontrer les filles de la ville de Sichem, du village, Sichem, le fils d'Amor, le chef du village, guidé par ses pulsions, par ses convoitises, enleva la fille de Jacob et abusa d'elle. Dans la société dans laquelle vit Jacob, lorsqu'une femme connaît un homme avant le mariage, elle a peu de chances de se marier par la suite. Quand elle a connu un homme avant le mariage, elle va être très facilement répudiée par la famille parce qu'elle aura, ce serait un déshonneur pour la famille. Dans ce récit, dans notre récit, on voit que ce que subit Dina va être le déclencheur de la colère de Siméon et de Lévi. Parce que leur sœur a été violentée, a subi une injustice à cause de la pulsion d'un autre individu. Elle était déshonorée, on va le lire dans le livre. Donc on part du déshonneur de la sœur, et après ils vont exprimer le déshonneur de la famille. Au travers de Dina, leur famille se sentent salies, ils se sentent insultés personnellement. De plus, lorsque les frères de Dina arrivent et apprennent donc cette histoire violente, ben, ils se trouvent là, ils voient le père Jacob. Certes, pendant tout ce temps-là, parce qu'ils étaient au champ, il n'a rien dit et on ne sait pas pourquoi, dans le texte, on ne dit pas pourquoi Jacob n'a pas réagi à l'instant. N'a rien dit parce qu'on aurait subi la même chose, je pense qu'on serait pris d'une certaine colère. Et même si Jacob aurait dit quelque chose, les frères de Dina étaient déjà dans un certain engrenage, dans un certain ressenti. Mais le texte nous donne aussi d'autres informations qui peuvent être perturbantes, qui peuvent être compliquées à percevoir. Le texte nous explique qu'entre-temps, Sichem est tombé amoureux de Dina et que par la suite, il a su parler à son cœur. Et là, je me revois là en train de lire le texte et je me dis, mais il aurait pu éviter ce qu'il a commis, il aurait pu discuter avec Dina et puis là, la voir comme on peut le faire ou l'avoir fait dans le passé. Et là, juste derrière, il a su parler au cœur de Dina. En étant extérieur à la situation, on se dit, mais c'est le syndrome de Stockholm, qu'est-ce qui se passe? C'est la personne qui l'a agressé. C'est très compliqué, c'est très difficile à percevoir, à cerner. On part d'une pulsion, une pulsion qui engendre une colère, mais entre-temps, les choses se reconfigurent différemment. Et un autre point qui est frappant dans le texte, c'est que l'on peut noter à quel point, et qu'à ce moment-là, dans le texte, on le lit, que la vie, ce que vit Dina, bizarrement, ne compte plus à l'égard de ses frères. C'est-à-dire elle a été violentée, et après, elle recrée une nouvelle relation avec Sichem. Mais ses frères n'intègrent plus cela. C'est-à-dire la victime, j'ai envie de dire, c'est un peu choquant de le dire, mais quelque part, on a l'impression que la victime est oubliée dans cette histoire et que la victime nouvelle, c'est les frères et la famille. L'honneur de la famille, c'est un grand mot. Il y a une époque, c'était Ethan qui avait fait un message sur l'honneur de la famille et on se bat pour l'honneur de la famille et au point d'oublier les victimes réelles, les victimes, l'individu dans la famille qui a été violenté. Je suis même allé plus loin, je disais, la victime ne nous intéresse plus. Mais en se mettant à la place de Simon et Lévi, il y a une injustice qui a été commise. Il y a quelque chose qui a été commis. Et il demande que justice soit rendue, quoi qu'il en coûte. Et on voit qu'ils sont là, comme je disais, dans un processus. Ils sont lancés dans une forme de colère. Ils sont lancés dans un mouvement. La cause de la colère, c'est une injustice. Et là, ils ont cette possibilité-là de sortir de cette colère. Mais voilà, on est dans une forme de ressenti. Ça, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Comme ça, c'est un petit aparté. Je me souviens quand j'étais encore un peu plus jeune, encore un peu plus, et j'étais avec mon cousin et il avait manqué de respect à notre grand-mère. Il avait s'était exprimé d'une certaine manière qui était peu acceptable. Et je me souviens qu'à ce moment, j'ai eu une grosse montée de colère et je l'ai roué de coups. Et je l'ai roué de coups et je reconnais qu'à un moment, j'étais tellement en colère que plus je rouais de coups, plus j'avais l'impression que la colère s'abaissait et s'apaisait. Et qu'au final, je m'énervais plus parce que il avait manqué de respect, parce qu'il était allé trop loin, mais je réagissais parce qu'il fallait que j'évacue cet excédent de colère que j'avais accumulé à ce moment-là. Et que j'étais quelque part dans une forme d'obligation d'aller jusqu'au bout. Et je me souviens, je revois là ma grand-mère qui se met à côté de moi et qui m'explique d'arrêter, que c'est fini et que c'était pas, ça n'en valait pas la peine et que elle était passée à autre chose et qu'elle n'en avait pas forcément souffert. Mais moi, c'était ce qu'elle ressentait ne m'intéressait plus. Il fallait que je termine ce que j'avais commencé. Bon, avec du recul, je me suis dit, il avait un peu mérité, mais c'est pas bien de le dire quand même. Donc, notre colère est causée par une injustice et elle entraîne certaines conséquences. Les conséquences de la colère. Si je vous parle de Bruce Banner, est-ce que certains vont savoir qui c'est? Et si je vous parle de Bruce Banner et de Hulk, l'homme vert, je pense que là, ça commence à être un peu plus clair pour tout le monde. C'est un personnage de fiction et je l'ai pris pour exemple, ça m'a, je trouvais ça intéressant. C'est un physicien nucléaire qui est brillant, qui est assez calme, qui est posé dans sa vie. Et lors des moments de stress ou de colère intense, il se transforme en Hulk, hein, en ce personnage immense, colossal et doté d'une force incroyable. Mais l'inconvénient, c'est que dès qu'il est dans ce corps-là, il est animé par une rage qu'il ne parvient plus à contrôler, qu'il ne parvient plus à maîtriser. Et tout du long de l'histoire, son combat il consiste à essayer de maîtriser cette colère-là. Comment, voilà, notre colère qui nous emporte. Moi, j'ai appelé ça l'effet dentifrice. Dire qu'est-ce que c'est l'effet dentifrice. Ce que j'appelle l'effet dentifrice, c'est, on va se mettre en colère. On va se mettre en colère. On va vivre quelque chose et on va se mettre en colère. Et dans la phase émotionnelle, si on nourrit notre colère comme un dentifrice, ça correspondrait à appuyer sur le tube du dentifrice. Alors notre colère, on la nourrit, on appuie de plus en plus, on appuie de plus en plus, on appuie de plus en plus. Le dentifrice sort de son tube. L'effet dentifrice fait que lorsque le dentifrice est sorti du tube, il devient quasiment, pas quasiment, il devient impossible de le réintroduire totalement dans le tube. C'est un peu notre colère. Lorsqu'on la nourrit et on la laisse s'exprimer et qu'elle commence à engendrer des conséquences, on va commencer à exprimer, on va commencer à dire certaines choses, on va se laisser emporter par elle et il sera quelque part trop tard. Le dentifrice est hors de son tube. Il y a des gens qui essaient de remettre le dentifrice dans le tube. Ils y arrivent, mais il en reste toujours à côté. Ce qu'on peut appeler les dommages collatéraux, les dommages de notre colère, qui sont toujours là, qui restent éparpillés sur l'évier. Donc, si on revient à notre texte, sur l'échelle de la colère, les frères de Dina sont au maximum. Ils sont sur le non-retour, donc le dentifrice à l'extérieur. Ils sont en mode, j'appelle ça en mode Hulk fureur. Et là, ils se disent tous les coups sont permis. Très souvent, quand on va être dans cette phase-là, on va se dire, Seigneur, il m'a fait mal. Et il n'a pas été sanctionné. Seigneur, je vais faire une petite prière. On va mettre juste le petit moment que je vais vivre là, entre parenthèses. Je vais me venger. Je vais m'occuper de celui qui m'a fait mal. Et après, Seigneur, je viendrai te voir et je te demanderai pardon. C'est ce que l'on va. On voit que les frères de Dina sont en colère et que bien que Sichem, c'est dur d'accepter, mais on le comprend, mais bien que Sichem est venu invoquer leur indulgence et de ses frères et implorer quelque part une forme de pardon, de dire que je suis prêt à payer tout ce que vous voulez pour que l'on passe à autre chose, mais malheureusement, les frères de Dina étaient déjà à bord le train de la vengeance avec malice et fureur comme en guise de locomotive. Direction l'empire de la colère. À ce moment-là, ils n'ont en tête qu'une seule chose. Un peu comme moi avec mon cousin, assouvir ma colère, décharger ce que j'ai ressenti. Leur soif de justice est certes fondée, mais à ce moment-là, ce n'est même plus œil pour œil, dent pour dent, c'est œil contre tout, œil pour tout. On va lire par la suite qu'ils vont user de ruses. Ils vont fomenter leur plan. On va dire à Suchem, ok, on est d'accord. On est d'accord, on accepte ce que tu nous proposes. Mais comme ils sont lancés dans ce qui dans leur mission, dans leur entreprise, ils vont décider de massacrer tout un peuple entier, toute une ville, tous les hommes. Ils vont piller le village pour assouvir leur colère, pour se libérer du déshonneur qu'ils ont subi. Vous êtes tous coupables du déshonneur que l'on a subi. Notre colère a des conséquences lourdes, notre colère a des conséquences inimaginables. En préparant le message, il y a un commentateur qui disait, au lieu de céder à la tentation de rendre le mal par le mal, laissons la vengeance à Dieu et ainsi épargnons-nous toutes les terribles conséquences du péché. Et plus loin, on voit quand même, on revoit encore cette phrase-là de Simon et Lévi qui se justifient, qui justifient leurs actes. Comme je disais, on va commettre des actes violents. Mais on va dire, mais Seigneur, quand même, il méritait quelque part, il méritait, Seigneur. C'est vrai que là, j'étais sur l'autoroute et là, on vient de me faire une queue de poisson. J'ai vociféré des injures les plus horribles. Et je dis, Seigneur, là, quand même, pour le coup, immérité, je prierai dimanche, je te rendrai grâce par la suite. J'ai fait un petit schéma qui récapitule un peu ce qui s'est produit tout du long de ce livre. On part d'une émotion, la convoitise de Sichem, qui engendre une violence, la violence que subit Dina, qui, elle, engendre la réaction, une autre émotion, la colère de ses frères, qui engendre un autre massacre, une autre violence. On est dans une boucle infernale. Un sentiment d'injustice sous l'emprise de la colère, l'expression de notre violence peut être physique. L'expression de notre violence aussi peut être morale. C'est moins perceptible. Une violence physique, on la voit. Et donc, c'est plus facile de l'exprimer très rapidement. Et on peut se mettre à la place de l'autre et de comprendre pourquoi il a agi de la sorte. Mais une violence morale, elle est moins perceptible. La violence morale, ça va être une discussion avec son frère, sa sœur ou son conjoint. Et elle aura des propos déplacés, ou il ou elle aura des propos déplacés qui nous mettront en colère. Alors, on va se laisser emporter par cette colère, l'effet dentifrice, et on va sortir une phrase. On va sortir une phrase, on va faire une remarque. Parce que dans notre état de colère, on n'aura qu'un seul objectif, c'est de faire mal. On ne l'aura pas touché physiquement, mais on aura dit quelque chose de violent. Et on partira. On aura blessé notre frère parce qu'on n'a pas su contrôler notre colère. Là, on est sur des notes un peu négatives, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. La bonne nouvelle, c'est que, en tant que chrétien, on a cet objectif-là, ce combat quotidien d'essayer d'être sur les pas du Christ, d'être des disciples du Christ, de suivre son enseignement. Donc, il nous a pas laissé démunis, tout seul, face à ce que l'on peut vivre, face aux injustices, face à la colère et face à nos états. Alors, oui, on peut se mettre en colère et c'est normal. Oui, la boucle de cette colère-là peut être interrompue. On peut décider de ne pas appuyer sur le tube de dentifrice. On peut faire le choix de refermer le dentifrice et de se remettre à Dieu en tant que chrétien. Peut-être la première étape est peut-être de se rendre compte qu'on est en colère, de se rendre compte qu'on est dans un état émotionnel qui atteint un certain niveau. Comme toutes les émotions, la colère, elle arrive très vite. Il faut accepter. On se met en colère, on l'a vu, il faut savoir. Ensuite, il faut pouvoir l'analyser, décoder notre colère. Pourquoi on s'est mis en colère? Est-ce que cette injustice subie ou est-ce que ce propos entendu doit générer une autre colère, une autre violence? Et Et plus loin, on peut dire, on peut verbaliser notre colère pour la contrôler. C'est vrai que ça ressemble un peu à une phrase de psychologue, allons voir, faire une psychanalyse, mais on verra plus tard une personne qui, dans la Bible, qui verbalise sa colère. Mais restons sur le fait de ne pas laisser la colère s'installer. Jérémie a cité ce passage dans Éphésiens. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Je suis en conflit avec mon frère. Première chose, j'essaie de comprendre pourquoi on s'est mis en colère. Et deuxième chose, on essaie de pardonner, de verbaliser, d'exprimer nos ressentis et de régler la problématique de l'instant. Mais on peut toujours être en colère. On peut être en colère. Surtout, ce que nous rappelle ce passage, c'est de ne pas pécher. Ne laissons pas la colère guider nos paroles, nos actions et nos décisions. Un peu comme on l'a vu avec Siméon et Lévi. Essayons de sortir de ce train de la vengeance, d'aller hors de ce train. Je le disais tantôt, il faut verbaliser, il faut prendre l'habitude de parler à Dieu de sa colère ou de ses émotions en général. Et on le voit avec David, c'est dans le psaume 59, et il est écrit « Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires, délivre-moi de ceux qui commettent l'injustice et sauve-moi des hommes sanguinaires. Car les voici aux aguets pour m'enlever la vie. Des hommes puissants complotent contre moi sans que j'aie péché. Éternel. Malgré mon innocence, ils accourent prêts à m'attaquer. Réveille-toi, viens vers moi et regarde. Toi, Éternel, Dieu de l'univers, Dieu d'Israël, lève-toi pour corriger toutes les nations. Ne fais grâce à aucun de ces traîtres impies. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. De leur bouche, ils font jaillir l'injure, les paroles sont des épées. Ils disent, qu'est-ce qu'ils entendent? Mais toi, Éternel, tu te ris d'eux, tu te moques de toutes les nations. Toi qui es ma force, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma forteresse. On voit que dans la vie de David, on voit ces moments-là, notamment avec Saül, où il aurait pu se venger de l'injustice qu'il a vécue. Il a eu plusieurs occasions, notamment dans la grotte, mais il s'est remis à l'Éternel. Il a exprimé ce qu'il ressentait. Il a même quelque part suggéré aussi des sanctions contre ses ennemis, on peut le lire dans le texte, mais il se remet à l'Éternel. Que ta justice soit faite. On voit que David donc déverse ses craintes, son sentiment d'injustice et sa colère devant Dieu. Il demande à Dieu de faire justice pour lui et lui donne même, comme je disais, quelques idées. On le voit dans de nombreuses, on voit que plusieurs psaumes sont empreints de colère et de vengeance. On peut le lire. Mais ils sont adressés à Dieu. Et on sait surtout que David ne s'est jamais vengé, comme je disais, des attaques de Saül. Dieu fait justice, Dieu est juste. Et apprenons à confier nos injustices subies et pour nous éviter de rentrer dans une autre violence. On a une autre chose aussi pour ne pas être sous l'emprise de la colère, pour ne pas donner cours à notre colère, pour ne pas laisser notre colère s'exprimer, c'est le pardon. Le pardon, c'est quelque chose d'assez compliqué, c'est assez dur. Le pardon, c'est quelque chose aussi qui nous permet de surmonter la colère et notre désir de vengeance. Pardonner, ce n'est plus être victime. Dans Matthieu 5, on peut lire... Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raca » mérite d'être puni par les Sanhédrins. Et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Apprenons à discuter. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi cette fois dans un jour, et que cette fois il revienne à toi, disant, je me repens, alors pardonne-lui. Jésus, notre modèle, tous nous apprend le pardon, nous apprend à pardonner. Et il nous dit qu'on n'est pas seul. Son Esprit Saint est à nos côtés. On se souvient du Christ sur la croix qui a subi toutes les infamies, toutes les injustices, les crachats, les humiliations, les coups de fouet. Et il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il pardonne. Le pardon, c'est quelque chose qui nous libère. Après une injustice, une attaque, une blessure, après une justice, une attaque ou une blessure, la colère, c'est quelque chose d'humain. Rendre le bien pour le mal est un défi. Nous avons besoin de Dieu pour pardonner. Nous avons besoin d'ouvrir notre cœur, de nous mettre à disposition au Christ pour apprendre, pour s'imprégner de ce pardon, pour le comprendre et pour le faire nôtre. Le pardon nous sort de cette condition de victime. Seigneur, je te remercie de m'avoir pardonné de mes fautes, de mes torts, Seigneur. Je te remercie de d'avoir pointé ton regard sur moi, Seigneur. Père, apprends-moi à ouvrir mon cœur, apprends-moi à recevoir tes enseignements, apprends-moi à pardonner comme tu l'as fait pour moi, apprends-moi à regarder mon frère ou ma sœur en vérité, Seigneur, apprends-moi à nouer une relation vraie. Apprends-moi à ne pas m'offusquer à la moindre occasion. Apprends-moi à être dans l'empathie. Apprends-moi à être dans la bienveillance. Apprends-moi à être à la place des autres, comme tu as pris ma place sur la croix, Seigneur. Apprends-moi à marcher sur tes pas. Père, sonde mon âme. Sonde ce que je ressens, Seigneur. Sonde ma douleur. Sonde la colère qui peut s'emmagasiner à certains moments, Seigneur. Apprends-moi à pouvoir te l'exprimer, à pouvoir la mettre à tes pieds, Seigneur, et te laisser contrôler, te laisser être juge de tout ce que l'on peut subir comme injustice ou de te laisser prendre le contrôle de ma vie, Seigneur. Pardonne-moi. Amen.
Oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées, regarde si je loin de toi, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur, sauve-moi, Seigneur. Et connais mes pensées, regarde si je suis loin de toi, regarde si je suis sur une mauvaise voie, regarde si je suis loin de toi et conduis-moi. Oui, conduis-moi et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Yeah.